meeting of the ICANN board and the SSAC on March 8th, 2016 in the Atlantis room from 1400 to 1500.
Welcome to this session. This is
Bienvenue à cette séance. Réunion conjointe Conseil d'administration et le SSAC. Beaucoup des membres du comité comité consultatif du SSAC sont ici avec nous. Je suis Ran Moham, liaison avec le conseil d'administration. Je vais vous céder la parole, Patrick, pour que vous puissiez commencer cette réunion. Bonjour, Patrick, président du SSAC. Je vais commencer par remercier les membres du conseil d'administration qui ont organisé cette réunion. Parfois, certaines années, on n'a pas eu ce genre de réunion avec le conseil d'administration. Depuis les dernières conférences, nous avons ce genre de réunion et je pense que la richesse des interactions et des dialogues qu'on a eus avec vous n'a cessé de se renforcer. Donc, merci. Je vous présente Jamie Galvin, vice-président de SSAC, puis un certain nombre de membres du SSAC, à ma droite comme à ma gauche. Nous sommes en tout 30 membres au SSAC. Et j'aimerais vous informer aussi que notre charte est souscrite au statut constitutif de l'ICANN. Rame au micro. Merci, Patrick. Je crois qu'il y a plusieurs questions thématiques qui figurent à l'ordre du jour que le SSAC aimerait adresser aux membres du conseil d'administration et d'autres que le conseil d'administration a adressées au SSAC. Est-ce que vous voulez d'abord répondre aux questions du conseil d'administration adressées au SSAC? Alors, il y en a deux. D'abord, la diversité étant considérée comme un défi à l'ICANN, qu'est-ce que le SSAC fait pour renforcer la diversité sous tous ses aspects? Qu'est-ce que peut faire l'ICANN pour soutenir ces efforts? Patrick au micro, merci. Nous, au SSAC, nous prenons cette question de la diversité très au sérieux. Par ailleurs, nous penchons sur la diversité des compétences lorsque nous cherchons de nouveaux membres pour notre comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. C'est un objectif important pour tout type d'organisation. Comme je l'ai dit hier en plénière, lors de la séance d'inauguration, nous étudions avec soin la question de la diversité géographique. Donc, pour nous, les réunions face à face ne sont pas nécessaires pour participer au SSAC et au processus de prise de décision du comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. Par rapport à ce que peut faire l'ICANN pour nous aider, au SSAC, nous essayons de travailler en lien avec le programme de boursiers, par exemple, qu'on essaie de suivre de près. Nous avons eu plusieurs membres du SSAC qui nous sont venus directement du programme de boursiers, qui était passé par ce programme. Et nous cherchons des boursiers sans arrêt pour essayer de trouver de nouveaux membres SSAC. Nous organisons également l'atelier de travail du DNSSEC, l'atelier de travail introductif et pour un public plus technique. Nous remercions d'ailleurs l'ICANN qui nous permet de continuer à organiser ces programmes de sensibilisation et nous sommes en train d'identifier également des nouveaux leaders et participants potentiels. Parce qu'au SAC, nous ne sommes que 30, donc nous ne pouvons pas faire tout cela seuls. Donc nous sommes un peu liés à ce que l'ICANN fait déjà. Rame au micro, y a-t-il des commentaires de la part des membres du panel ou dans la salle? Bonjour, Acha au micro, Hem Rajani. Patrick, merci beaucoup d'avoir évoqué l'atelier de travail du DNSSEC. J'aimerais vous en féliciter, c'est excellent. Moi-même, j'ai beaucoup appris en y participant et je me suis aperçue que cette fois-ci, lorsque vous l'avez organisé ici à Marrakech, vous avez eu beaucoup de participants africains. Et moi, les retours que j'en ai eus étaient extrêmement positifs. Donc, je vous en félicite. Rame au micro, y a-t-il d'autres commentaires? Passons à la deuxième question qui figure à l'écran. Quelle est votre réaction par rapport au rapport final du CCWG sur la responsabilité? Patrick au micro. Nous l'acceptons sans commentaire. Nous acceptons ce rapport final sur la piste de travail numéro 1 du CCWG sur la responsabilité. Donc, il n'y a pas beaucoup à dire dessus. Toutefois, nous avons des commentaires qui sont liés à la phase de mise en œuvre. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait de commentaires que nous allons rester les bras croisés jusqu'à ce que la mise en œuvre soit faite. Rame au micro. Oui, pour revenir à la diapo précédente, il y a toute une série de questions qui figurent ici à l'écran qui relèvent, d'après moi, de domaines techniques. Y a-t-il d'autres questions du côté technique qui devraient figurer ici à l'écran, d'après vous? Bonjour. Jonas au micro. Jonas Jonen, pardon. Je travaille sur les IDN. Le conseil qui travaille sur les IDN avait une question supplémentaire sur un travail qu'a fait le groupe de travail sur les chaînes de second niveau. Et ce que nous aimerions savoir, c'est quel est le niveau d'engagement du SAC dans ce travail. Patrick au micro. Alors, première réponse, le SAC prend des décisions au consensus. Et comme je l'ai dit auparavant, nous parvenons au consensus en nous mettant d'accord sur une déclaration commune après des appels téléphoniques sur une semaine. Donc le SAC ne peut pas participer à ce genre de travail. Ce que peut faire le SAC, c'est répondre à certaines questions. Nous pouvons réviser le document lui-même. Nous pouvons, d'une manière générale, élaborer des déclarations, des commentaires. Et enfin, nous pouvons nommer des personnes que nous considérons comme étant compétentes pour participer. De notre côté, ça ne veut pas dire que ces personnes vont parler au nom du SAC. Deuxièmement, concernant le CCTLD et les IDN, le SAC a travaillé sur un document sur les IDN génériques pour voir s'il y a ou non un manque d'harmonisation entre les IDN, comme les centres d'échange sur les marques, la piste accélérée des CCTLD. Par exemple, si la contribution du panel en question doit donner des directives spécifiques à la piste accélérée des CCTLD et vice-versa. Et s'il existe un risque pour que les nouveaux GTLD avec certains caractères ne puissent pas rentrer dans cette piste accélérée des CCTLD, et etc. Ça, on ne le sait pas. Quel est l'impact de cela? Donc, il faut qu'on examine tout cela, ainsi que les diverses versions d'Unicode. et quels sont les impacts. Pour ce qui concerne les CCTLD dans ce processus, je pense qu'il est important non seulement de voir les aspects techniques, mais aussi les processus des CCTLD eux-mêmes, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut dire non à un CCTLD ou à un pays qui demande telle ou telle chaîne ? Par rapport à cette question, nouvel intervenant au micro, Johnny, la question serait la suivante, parce que les gens s'intéressent à l'aspect sécurité aussi. Est-ce que vous prévoyez d'utiliser une méthode qui consisterait à nommer une personne pour examiner cet aspect-là des choses ? Et autre aspect des choses, ce qui nous intéresserait, c'est que vous avez un suivi de ce travail. Pensez-vous qu'il est nécessaire que vous réagissiez ? Patrick Omicro, oui, j'ai reçu cette même question hier de la part de RAM à 7h34. Donc, nous avons une réunion juste après celle-ci et on va parler pour voir s'il est nécessaire de nommer une personne à ce groupe ou non. Je ne peux pour l'instant pas répondre à cette question, on va en parler. Pour ce qui concerne ce que l'on fait dans le groupe de travail et si le résultat de ce groupe de travail va aider les autres, je peux vous dire qu'on a parfois on n'a pas suffisamment de contributions. Là, ça n'a pas été le cas. On a eu beaucoup de contributions, donc je suis sûre qu'on va trouver une solution qui va être utile.
Jonas, oui, c'est la réponse que je voulais. Merci beaucoup. Ram Mohan au micro. Patrick, passons au deuxième thème sur l'agenda, les questions des inquiétudes soulevées par le SAC. Acha va se préoccuper de cela au niveau du bureau d'administration, du conseil d'administration, pardon. Patrick, Farnstrom au micro. Le document 63 a été écrit en 2013 parce qu'en 2010, ICANN avait signé la zone racine. Mais après un certain temps, et dans la déclaration qu'on appelait la déclaration de pratique, disons, il y avait une information au sujet du rollover clé qui devait être fait après 5 ans, disons. Donc, après 2013, puisque rien ne se passait, nous avons écrit le SAC 53 pour 63, pardon, pour nous préoccuper, pour encourager l'ICANN à regarder, à se préoccuper de ces problèmes de roulement de clés. Parce que c'est un processus qui va prendre du temps, exactement comme la transition YANA. C'est donc quelque chose, à notre avis, qui doit avoir la priorité. En ce qui s'agit de cette recommandation 63, et la raison pour laquelle nous n'en parlons pas, n'en avons parlé jusqu'à présent, c'est parce que nous, en tant que groupe et en tant que personne à laquelle nous n'avons pas fait notre travail. Et donc, il y a un délai, mais c'est une question complètement séparée. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous discutons aujourd'hui. En 2015, quand nous avons vu que certaines choses se passaient, nous avons envoyé la lettre SAC 73 qui soulignait le fait qu'il y avait quelque chose qui devait être fait, qu'il y ait plus d'attention mise sur ce sujet et que nous voulions aller de l'avant, puisque nous voulions aller de l'avant. Nous avons mentionné cela au conseil d'administration dans nos réunions et à Dublin d'ailleurs. Et nous croyons toujours qu'il est important que ce processus de roulement soit mis en œuvre. Nous sommes tout à fait au courant que la clé, le processus de signature de clé que nous utilisons souvent doit être changé, qui doit peut-être être changé. Et nous avons une équipe qui travaille sur un rapport que certains des membres SAC, auxquels certains des membres de SAC ont fait partie. Nous avons un briefing de ce rapport. Ce rapport a été publié ce matin. Donc, il est maintenant possible de le lire, d'en prendre connaissance. Nous pensons que dans ce rapport, il y a donc une chronologie, un calendrier, et il est donc important que nous puissions enquêter pour voir si cette chronologie est réaliste. Et si ce n'est pas le cas, nous devons voir ce que nous pouvons faire. Quand il s'agit de la recommandation 5 actuelle, il faut voir si que le roulement de clés se produise aussi vite que possible. Et pour que ce processus fonctionne, il faut qu'il y ait une espèce de processus d'escalade d'escalade afin que l'on puisse décider s'il y a indication pour des corrections. Au niveau opérationnel, on ne peut pas faire les choses rapidement. Il faut que tout soit bien mis en place au préalable. L'équipe de conception a un plan qui a été d'ailleurs publié aujourd'hui. Nous en avons discuté longuement et Asha et moi en avons discuté depuis longtemps d'ailleurs. Nous sommes heureux de dire que toutes les discussions que nous avons eues avec le personnel et conseil d'administration a abouti et je voulais remercier tout le monde pour ces conversations qui ont été des plus constructives. Asha au micro. Merci Ram et merci Patrick pour avoir partagé vos inquiétudes sur ce roulement. Vous l'aviez souligné à Dublin déjà. Tout d'abord, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis dans ce processus de roulement de clés via le travail du RSAC. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que le SAC 63-73, il s'agit de l'avis SAC sur le roulement de clés du DNSSEC dans la zone racine. La réponse de l'ICANN détaillée a commencé en 2014, a été commencée en 2013. Et cela souligne vraiment qu'il fallait une meilleure communication entre les groupes. Il faut absolument améliorer les chaînes de communication entre nous. Le processus vient de démarrer. Le conseil d'administration va essayer de répondre de façon prompte et complète à toutes les demandes du SAC. Je veux vraiment souligner cela. Et nous avons besoin des recommandations de tous les SO et les AC. Comme on l'a dit hier, lorsque nous avons eu cette discussion, nous espérons pouvoir faire plus de suivi et qu'il y ait plus de recommandations partagées. Steve avait nommé donc Melissa pour qu'elle soit responsable du travail. Oh, voilà un petit oiseau dans la salle. Et pour que David l'accompagne pour travailler là-dessus. Et j'espère que cela va nous permettre de bien communiquer et que tout cela va vous permettre de mieux fonctionner. Mais en parlant de la part du conseil d'administration, je voudrais que nous continuions à souligner comment ces problèmes de sécurité et stabilité nous concernent et qu'ils sont importants. Donc, merci. Je voudrais demander s'il y a d'autres membres du conseil d'administration qui veulent prendre la parole. Drew Stankin du conseil d'administration. Merci, Asha. Je voulais juste souligner qu'il y a des membres du conseil d'administration dans la salle. Et beaucoup d'entre nous sommes là, ici. Sur ce sujet de délai, je pense qu'il y aura toujours un défi. Il y aura toujours des soucis quand il s'agit de faire le rôle de quand il s'agit du roulement des clés. Si on attendait encore 200 ou 300, nous aurions encore plus de problèmes d'installation de la base. Et probablement, si quelque chose devait mal fonctionner, il pourrait y avoir un plus grand impact encore. Je voudrais encourager les gens à continuer avec le planning pour donc participer à ce roulement de clés dans la zone racine. Il y a tellement de choses, de projets en ce moment, mais nous sommes très satisfaits du travail, surtout sur tout ce qui est stratégie de communication. Ainsi, on peut expliquer de meilleure manière à tout le monde de l'importance du sujet. Et on peut faire passer le message. Patrick Farston, merci. Avant que j'invite d'autres membres du groupe à prendre la parole, je peux vous dire que aussi, je voulais souligner un autre point. Le rapport de l'équipe de conception a un calendrier, une chronologie, ce qui veut dire, mais aussi en parallèle avec ce rapport, il y a d'autres plans qui sont en place. Donc, à l'opinion de l'ESSAC, nous savons que l'ICANN ne peut pas seulement prendre décision sur le calendrier à son propre chef. Il faut travailler en communication. Donc, si l'ICANN décide d'attendre, il pourrait y avoir d'autres choses que l'ICANN pourrait faire pour participer à la date donc, qui a déjà été publiée. Attendre, donc, ne rien faire n'est pas une option. Il est important de faire les choses aujourd'hui, par exemple, quand le rapport a été publié, pour bien faire un suivi. Les dates du rapport sont celles-ci, mais je voudrais que mon collègue en parle. Merci, Patrick. Geoff Houston au micro. Je suis très familier avec les dates de ce rapport. Les clés sont traitées de façon respectueuse et elles sont utilisées à un certain moment de l'année, on appelle ça la cérémonie des clés, quand il est approprié de mettre donc le rôle de ces clés dans un agenda qui correspondrait donc à la cérémonie de remise des clés. Donc, le processus doit commencer au 1er avril et doit durer sept mois jusqu'à donc la fin décembre. Donc, cela nous permettrait de générer de nouvelles clés qui seraient donc utilisées pendant les cérémonies de signature. Donc, de pouvoir distribuer des secondes clés. Donc, nous pourrions faire la première cérémonie le 1er janvier 2017 et nous pourrions ainsi annoncer les nouvelles clés. Ce serait donc un événement qui ne pourrait pas nous distraire du reste de notre calendrier. Le changement de l'ancienne clé à la nouvelle clé nous permettrait de ne pas trop chambouler le reste des activités. Si nous ne suivons pas ces mouvements, nous verrons que le DNS aura de sérieux problèmes. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont inclus dans ce processus. Nous ne savons pas exactement quelle sera l'ampleur du problème. Si on assume que les deux premiers événements se seront bien passés, sans trop de problèmes, le troisième événement se passerait donc au milieu de l'année. Ce serait la révocation de l'ancienne clé pour qu'il n'y ait pas de problème qui serait donc resté sur la table avec la vieille clé. Tout cela est très technique, mais à l'intérieur de toutes ces informations, il y a un document qui est une déclaration de pratique du certificat qui détaille vraiment comment est-ce que l'ICANN fait face à cela. Il y a la seule raison que le monde devrait faire confiance à toutes ces petites informations, c'est que l'ICANN pourrait avoir un engagement public unilatéral pour gérer la clé d'une certaine manière. Cette déclaration donc de pratique serait donc un document que le conseil d'administration devrait lire et considérer complètement tout le temps, parce qu'il fait partie de la raison pour laquelle le monde nous ferait confiance et que le monde ferait confiance à la gestion de l'information sur les clés. Cela est au cœur de la sécurité du système du DNS. Ainsi, nous pourrons soutenir que l'engagement de l'ICANN et qu'il y ait donc en place un conseil d'administration qui soit complètement responsable et qui assure que l'information est suivi et que aussi le personnel comprenne ce qui se passe au niveau technique. Merci. Acha, au micro. Merci, Patrick. Merci à Jeff. C'était très utile. Je vais demander au personnel, David, peut-être, de nous parler des calendriers et adresser les questions de Patrick. David, comprends le micro. Oui, nous sommes très au courant du calendrier et des défis que cela pose. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses en cours en ce moment, surtout pour les gens qui sont responsables de la gestion des clés et tous les gens qui travaillent pour l'IANA et la transition. Il y a donc beaucoup de changements de processus en cours. Et il y a aussi des scripts qui sont nécessaires pour générer les questions des clés. Et nous avons donc des défis à ce jour concernant le peu de ressources que nous avons. Nous faisons face au risque d'attendre et de faire le roulement posera un problème au niveau des utilisateurs finaux. Et donc, le plus longtemps nous attendons pour faire ce roulement, le plus longtemps nous allons utiliser le logiciel qui sera mis en place, qui sera mis en œuvre pour soutenir cette clé. Donc, nous pourrons avoir des soucis de cassure. Tous les logiciels que nous allons utiliser pourraient nous poser problème. Car la taille des paquets qui seront utilisés sera importante. Nous essayons maintenant d'évaluer la meilleure façon de faire les choses avec les ressources que nous avons, qui nous sont disponibles. Nous n'avons pas encore pris une décision à ce jour et nous allons voir quand nous allons initier ce processus de roulement de clés. Nous devons développer, élaborer un plan de communication pour nous aider à faire cela. Nous essayons de développer un plan opérationnel avec VeriSign. Ce plan de mise en œuvre fera partie des recommandations que l'équipe de conception utilisera. Nous devons mettre en place un plan de test pour minimiser les risques de cassure. Et nous devons avoir un plan de sauvegarde pour essayer justement de trouver où il y aura des cassures et de pouvoir les anticiper. Nous espérons que tous ces plans soient mis en place très vite. Je n'ai pas encore les dates, parce que nous voulons vraiment mieux comprendre quelles sont les exigences de mise en œuvre, tout d'abord. J'espère que cela répondra à votre question. Aïcha, merci David. Ross, au micro. Merci David. Ross Mandy, au micro. Je voudrais parler des risques et de l'équilibre des risques qui sont associés avec toutes ces activités. Quelquefois, ces risques ne sont pas visibles facilement. Dans le cas du roulement de la clé de zone, le plus longtemps on attend, le plus de risques il peut y avoir. Et puis, il y aura des changements, les risques changent. À ce moment-là, on dirait que le plus longtemps on attend, le plus va croître le DNS. Donc la pression va être d'adresser le roulement de clé qui sera très complexe. Quand on arrive à un certain point où on a besoin de faire un algorithme de roulement de clé, il me semble qu'il serait mieux de pratiquer, disons, de s'entraîner raisonnablement à faire ce roulement de clé afin qu'on puisse prendre des étapes plus petites. Nous savons maintenant que les résultats de validation sont, mais le plus longtemps nous attendons, le plus il y aura de risques quand les nouveaux validateurs vont commencer à rechercher des nouveaux algorithmes, nous aurons ce problème. Au micro, David Comrade. L'évaluation des risques associés avec le roulement de clés et pose de gros défis. Par exemple, il y a 2 semaines, on a trouvé un bug dans une des librairies d'un package de logiciels. Et il était donc recommandé, ou du moins une information a été passée, qu'il fallait filtrer les réponses. Qu'il n'y aurait pas d'impact, ce bug n'avait aucun impact. Donc, dans ce cas-là, un roulement de clé aurait un taux d'échec énorme pour tous ces résolveurs. Je vois qu'il y a Il y a une raison d'être des deux côtés, que les roulements soient faits maintenant ou plus tard, que le risque sera plus ou moins grand. Ce n'est pas vraiment le problème que nous avons maintenant. Maintenant, nous faisons face au problème de manque de ressources. Comme je l'ai dit, les gens qui sont engagés ou qui participent à la transition de Liana à un niveau interne sont aussi inclus dans le processus de gestion de clés. Nous avons beaucoup de projets qui sont en cours avec Liana en ce moment et nous avons beaucoup de projets qui ciblent l'amélioration de l'infrastructure pour faciliter plus de flexibilité et de capacité, donc pour faire ce roulement de clés et pour gérer les cérémonies de clés. Nous avons des problèmes de risque et il y a donc les gens qui s'en préoccupent. Je vais passer le micro à Chris.
Chris Despain au micro. Bonjour à tous. J'aimerais dire 2 choses. D'abord, je suis peut-être un peu naïf. En tout cas, je ne suis pas du tout technique. Mais quel que soit le moment où intervient le roulement de clés, un plan en place ne fait aucun mal. Donc, si le plan est déjà là pour évaluer les risques en termes de temps, il n'y a pas de problème. Donc, ma question à David est la suivante. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas la bande passante pour créer le plan dès maintenant, c'est ça? Vous n'avez pas un plan prêt pour le roulement lorsque nous allons décider d'appuyer sur le bouton? Non. David au micro. Ce que je dis, c'est qu'on travaille sur la conception de ce plan maintenant. Ce n'est pas un seul plan, c'est plusieurs plans. Donc on est en train actuellement d'élaborer ce plan. Et ça fait un moment maintenant que l'équipe de conception travaille sur cela et ils ont finalisé leur rapport depuis novembre l'année dernière, je crois. Donc nous avons certaines limites en termes de ressources internes. Ça a pris du temps pour finaliser ce travail de l'équipe d'élaboration du plan. Mais maintenant, ce plan est finalisé. Il y a un document de contribution qui a été ajouté à d'autres plans que nous sommes en train d'élaborer. Patrick au micro, merci beaucoup. Greg au micro. Chris, en fait, il y a deux aspects ici du plan. D'abord, c'est le plan purement technique sur lequel David et son équipe travaillent. Mais il y a aussi un aspect sensibilisation et communication. Donc le SAC a recommandé que dans le cadre de ce plan, on parle avec le reste de la communauté pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et aient le temps de se préparer. David au micro, oui, pour être clair, nous avons de l'aide hein, par rapport à cet aspect communication et sensibilisation. Ram au micro, oui, j'aimerais céder la parole aux autres membres du panel pour passer à un autre point ensuite de l'ordre du jour. Je vois Dani souhaite intervenir. Dani au micro, oui, je voulais faire un commentaire ici. Par rapport à quelque chose qui a à voir avec la taille du lien de la clé qui est passée de 1024 bits à 2048. Donc, un plan a été communiqué et coordonné avec la ICANN qui est lié à cette question et VeriSign est en train de préparer un plan pour avancer. Donc, il y a des aspects techniques qui doivent être pris en considération, mais d'une manière générale, en tant que membre ESSAC, je dirais que la pérennité de ces actions, de ces activités, sont essentielles pour la sécurité et la stabilité de l'infrastructure. Et je pense que c'est extrêmement important. Et ce que vient de dire Jeff l'est tout autant, d'ailleurs, hein. Ce que je crois qu'il faut éviter à l'avenir, c'est que beaucoup des paramètres associés au problème de la collision des noms fait qu'il faut sensibiliser les gens par rapport à l'infrastructure et aux parties qui seront éventuellement affectées par les échecs. Donc, je pense qu'on a énormément progressé par rapport ce qu'était la situation avant à l'ICANN et vis-à-vis de la communauté dans le domaine de la préparation et de la communication entre les parties prenantes. Mais il faut qu'il y ait une meilleure communication. Le SAC comprend mieux quels sont les besoins. Et je sais que cet aspect communication est particulièrement difficile. Autre intervenant au micro, oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par rapport à l'infrastructure et par rapport aux moyens de cette infrastructure. Si on avait les instruments nécessaires, ça nous aiderait énormément pour comprendre les implications potentielles de ce roulement de clés. Patrick au micro, oui, merci beaucoup. Je pense que ça a été une excellente discussion. Et pour les gens qui n'ont pas participé à la discussion ces derniers jours, vous comprenez maintenant l'ampleur un petit peu et la teneur de ce problème. Donc, du point de vue du SAC, comme vous l'avez entendu, la première date de publication de ce rapport, c'est le 1er avril. Donc, il est très important pour les membres du SAC de décider avant cette date de ce qui doit être fait avant et après le 1er avril. Donc, j'ai une question pour le conseil d'administration. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez faire et qu'allez-vous faire pour aider le SAC à avancer? Peut-être que c'est une conversation qu'on devrait avoir avec David, mais finalement, ça nous implique tous. Donc, que pouvons-nous faire précisément entre maintenant et le 1er avril? Nouvel intervenant au micro. Merci, Patrick. Je pense que le conseil d'administration a échangé pas mal de messages ces dernières minutes. Donc, maintenant, notre rôle est de travailler avec le PDG. D'ailleurs, le 1er avril, on va avoir un nouveau PDG. Non, excusez-moi, se reprend l'orateur. Un nouveau PDG au mois de mai. Hein, on aura Akram au mois d'avril. David a parlé également des défis par rapport aux priorités. On est déjà très occupé pour voir comment organiser l'ICANN. Mais la mission fondamentale de ce groupe, c'est de garantir la sécurité et la stabilité. Ça ne fait aucun doute. Donc, ça va être l'une de nos principales priorités. Donc, on va s'assurer de pouvoir garantir la plus haute priorité à cette question et de parler à notre personnel demain. Patrick, au micro, merci beaucoup. J'espère que vous comprenez que si on parle de cette date du 1er avril, c'est parce qu'on tient à travailler très dur d'ici le 1er avril. Ram au micro, oui. Je crois qu'on en a fini avec la première question. Passons à la deuxième. Ben au micro. Nous voulions saisir cette occasion pour parler des efforts récents faits par l'ICANN pour introduire des indicateurs clés de performance, KPI en anglais. Il y a eu une période de commentaires récemment et nous avons soumis des commentaires dans le cadre du document SAC 77. Étant donné qu'on a peu de temps, voilà les principaux aspects de nos commentaires dans ce document. Je pense que notre principal commentaire, ça a été le suivant. La méthodologie et l'approche vis-à-vis des indicateurs clés de performance essentiels semblent nous ramener un petit peu en arrière. Les mesures chiffrées qui sont proposées semblent reposer sur les données collectées qui sont facilement disponibles. Et il vaudrait plutôt mieux réfléchir à ce que l'on devrait identifier, puis voir quelles sont les mesures chiffrées qui peuvent nous amener à cela. Par exemple, récemment, nous avons récemment publié un document. Il s'agit du SAC 74, me semble-t-il, où nous étudions la protection des données des titulaires de noms de registre et le cycle de vie de la gestion des validations. Et nous voulions voir quel était le niveau de confiance de la part des utilisateurs dans l'espace des noms de domaine. Et cette information est facilement disponible parce qu'il y a un certain nombre de non-conformités qui ont été enregistrées par les bureaux d'enregistrement. Donc il y a un besoin clair. Si l'on cherche à trouver quels sont les indicateurs de performance clés dans l'espace de nom de domaine, il y a des données qui sont collectées et qui sont parfois partagées, parfois elles ne le sont pas, entre la communauté des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre. Greg Aaron a soumis plusieurs commentaires dans la période de commentaires. Mais encore une fois, nous pensons que cela nous ramène un petit peu en arrière et nous aimerions avoir un point de vue un petit peu plus global. Steve Crocker au micro. Merci. D'une manière générale, lorsque vous mesurez les plaintes, vous vous apercevez que les gens cessent de se plaindre dans deux situations, lorsqu'ils sont satisfaits ou lorsqu'ils n'ont pas trouvé réponse à leur plainte, donc ils cessent de se plaindre. Je ne sais pas exactement quel est le cas de figure ici. Nouvel intervenant au micro. Alors, il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été faites à l'ICANN. Dans certains cas, les plaintes étaient les suivantes. Les gens pensaient qu'on ne mesurait pas. Par exemple, les lettres de non-conformité ne nous disent en fait pas combien d'entre elles sont en conformité avec les contrats, parce que le processus qui est utilisé pour obtenir ces lettres de non-conformité, par exemple, Huiz, c'est un autre endroit, un autre espace où le nombre de plaintes a été proposé comme mesure pour parler de la précision et de la satisfaction des gens vis-à-vis de la précision. Donc, quelqu'un a parlé du programme de mesure du Huiz détaillé. Ça aussi, c'est une mesure qu'on peut utiliser. Comment les mesurer de manière efficace pour savoir dans quelle mesure l'ICANN est efficace et l'écosystème dans son ensemble aussi. Chérine, Erika et Cyrus figurent sur ma liste d'orateurs d'IRAM. Chérine au micro, oui. Je veux être bien sûr de comprendre. Vous dites, lorsque vous dites qu'on recule, qu'est-ce que vous voulez dire? Une fois qu'on collecte les données, qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut bien identifier le problème auquel vous attaquez avant de collecter les données. C'est ça que vous dites? Oui. En substance, oui. Oui, oui. Nouvel intervenant au micro. Parce que sinon, vous mélangez tout et vous mélangez ce que vous cherchez avec le problème. Chérine au micro, je ne sais pas si Akram ou Cyrus sont ici dans la salle pour faire un commentaire là-dessus. Mais merci de ce commentaire. Erika au micro. Oui, je voulais intervenir dans le même sens de ce qu'a dit Chérine. Ma question est la suivante. Vous avez cité Greg Aron. Vous avez dit que Greg a observé que certains indicateurs clés de performance proposés tournent autour des données qui sont actuellement disponibles. Dans certains cas, l'ICANN a parfois besoin de développer de nouvelles sources de données. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça peut être, c'est toujours un problème. Si vous voulez analyser des données, il faut se poser la bonne question. Mais j'aimerais, et ça nous aiderait tous, d'avoir un aperçu simple du type d'accès aux données que vous aimeriez avoir. Peut-être que je n'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire, mais ce serait bien d'avoir une réponse simple et claire. Ben au micro, merci. Oui, il y a des exemples spécifiques qui ont été cités dans ce document dont je parlais. Et je vais revenir, par exemple, conformément au document 63, il faut faire rapport sur les non-conformités. Par rapport au paragraphe 74, ce rapport de non-conformité doit être à nouveau analysé. Nous, en tant que communauté, nous avons accès aux nombre de non-conformités, mais aussi quel type de non-conformité ou d'infraction. Parce qu'on peut le faire sans sans pour autant jeter le blâme sur les bureaux d'enregistrement ou qu'ils se sentent incommodes. Mais voilà des exemples de méthodologies qui peuvent requérir de nouvelles données qui ne nous permettent actuellement pas, qu'on ne peut pour l'instant pas utiliser. Patrick au micro, oui. Ça ne veut pas dire que l'ensemble total des données est en train d'augmenter. Il faut collecter ce dont on a besoin exactement et pas plus. Marc, puis Cyrus. Marc au micro, oui, certains d'entre nous travaillent sur la protection. Dans le document 74, on parlait ici des credentials en anglais et des identifiants en français. Mais l'ICANN a des données sur les rapports d'infraction des bureaux d'enregistrement. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on devrait demander à ce que ces données soient collectées et publiées. Cyrus, rame au micro, vous êtes le dernier. Nous n'avons plus que 9 minutes. Et après Cyrus, nous passerons au dernier point. Cyrus au micro de la division du GDD. Donc, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Il s'agit d'une initiative visant à construire un tableau de bord pour analyser la santé et la diversité de l'espace GTLD. Ça, c'est l'objectif principal. Ensuite, nous avons élaboré un document où on a fait la liste d'idées proposées, et j'insiste ici sur le terme proposées, pour nous aider à voir ce que nous devons suivre, qu'est-ce que cela veut dire que de mesurer l'espace en question et la santé de l'espace des noms de domaine. Par exemple, les mesures et les indicateurs, voilà ce pourquoi nous collectons des données. Ensuite, le volume des réponses que l'on a reçues m'a vraiment impressionnée. Le niveau d'enthousiasme et de motivation m'a également impressionnée. On a reçu plus de 30 commentaires publics de la part du SAC. Et il s'agissait simplement d'idées proposées pour faciliter la discussion. Et d'ailleurs, je suis heureux que cela vous ait aidé, parce que l'aide et la contribution du SAC a été particulièrement utile. À la fin janvier, date à laquelle s'est finalisée cette période de commentaires publics, le personnel a pris en considération les contributions de tout le monde. Nous avons incorporé dans ce document toutes les contributions. 30 volontaires se sont lancés dans une initiative pour constituer un groupe de travail pour voir ce que nous suivons et quelles sont les données dont nous avons besoin. Pour ma part, je suis optimiste et je suis très reconnaissant vis-à-vis de la communauté pour toute l'énergie qu'ils y ont consacrée en fonction de leurs connaissances et de vos points de vue, vous qui êtes experts. Soyez assurés que on ne veut absolument pas, nous, personnel, redéfinir votre travail. Ça doit être fait par vous. Il s'agit d'améliorer les choses et de passer à l'étape suivante. Merci.
Patrick Falstrom au micro. Merci beaucoup. Dernier thème de la discussion. Il s'agit d'une information pour le conseil d'administration. Jim va vous en parler. Merci, Patrick. Je suis Jim Garbin. Je suis vice-président du SAC et je suis co-président de ce groupe de travail. Je pense que nous avons une autre diapositive qui est prête. Comme vous le voyez, sur l'écran. La dernière fois, nous avons fait un briefing avec le conseil d'administration et nous avons souligné le sujet qui était important. Et voilà donc une mise à jour de notre part sur ce sujet pour l'espace de nom. C'est pour vous rappeler que nous pensons vraiment que ce sujet est important. Voici un diagramme, un graphique qui est à la base de notre discussion d'ailleurs et qui reflète cet espace, ce problème de l'espace. Je voudrais souligner quelques points à propos de ce graphique et qui soulignerait donc les problèmes auxquels nous faisons face. Il y a trois choses que vous devrez comprendre. La première chose, il s'agit d'un aperçu des sous-ensembles des chaînes de TLD possibles qui existent aujourd'hui. Par exemple, l'IETF a des noms réservés. Il y a donc une liste de noms TLD qui sont dans la zone racine. Ceci représente des sous-ensembles de listes de TLD. La deuxième chose à comprendre à propos de ce graphique, c'est qu'il y a des critères d'inclusion. Dans certains cas, c'est assez bien défini. Donc, on peut considérer les étiquettes de TLD dans la zone racine. La plupart du temps, on peut voir qu'il y a une définition assez claire de ce qui peut et ne pas être inclus dans la zone racine. En général, donc, les choses sont bien définies. Il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des règles pour déterminer si les chaînes peuvent être mises ou enlevées des sous-ensembles. Encore une fois, il y a des fois où c'est assez bien défini, les TLD, les étiquettes TLD dans la zone, etc. Certaines listes sont plus ou moins descrites. Voilà, donc ceci est seulement un aperçu. Il faut donc considérer que cela n'est pas nécessairement une liste possible d'étiquettes qui peuvent être valides afin de devenir des chaînes TLD. Il faut considérer d'autres choix, d'autres gens qui ont des listes, leurs propres listes. Donc voilà les trois questions principales. Questions que nous utilisons pour notre discussion. Voilà, nous vous les proposons afin que vous ayez le temps d'en discuter. Et ce sont des questions qui peuvent vous aider à vous informer sur ce sujet. Quels sont les règlements donc qui déterminent les membres de chacun de ces sous-ensembles? Comment sont-ils définis? Les listes viennent de sources différentes. Et donc, chaque source aura donc une idée de ce qui va aller sur la liste ou qui va être retiré de la liste. C'est donc important de comprendre que certaines listes sont mieux définies que d'autres. La deuxième question est celle-ci. Quels sont les règlements pour bouger, donc déplacer les chaînes en externe ou en interne d'un sous-ensemble? Être un membre n'est pas toujours bien défini. Et qu'on puisse être membre ou qu'on puisse être retiré de la liste de membres n'est pas forcément défini non plus. La dernière question est importante, surtout au sein de la communauté ICANN. Et donc, nous voulons souligner ce fait. Quelle est l'intersection entre ces deux ou trois ou plus de sous-ensembles? Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a un nom sur une liste et pas sur une autre, que cela veut-il dire? Si cette chaîne est sur les deux listes, que cela veut-il dire? Quand il y a chevauchements entre les boîtes, vous voyez, vous avez une liste de noms sur des noms de domaine, .onion par exemple. Nous avons des étiquettes qui sont réservées dans le guide africain, par exemple. Voilà donc des cas où les intersections représentent une case où il n'y a rien. Nous espérons que ce sera le cas, ce sera toujours le cas. Est-ce que cela est bien compris et bien documenté? Y a-t-il des parties qui créent donc des listes et qui communiquent et qui sont au courant du fait qu'ils doivent respecter chacune de leurs listes? Et la dernière question est celle-ci, une mise à jour pour vous d'ailleurs. Nous espérons de façon très tangible que cela va expliquer les problèmes que nous avons dans cet espace et pourquoi cela consiste en un problème. Steve Koch, merci Jim, c'est très clair. Je voudrais faire suite à tous ces messages. Je suis le développement de tous ces messages depuis longtemps d'ailleurs. L'utilisation des noms deviennent une tradition, pas nécessairement juste pour l'IETLF, mais aussi en général. Donc, pouvoir discuter de comment on va coordonner toutes ces choses permet d'espérer que nous pouvons obtenir un accord, que nous puissions nous coordonner entre les différentes communautés. Et ainsi, nous pouvons prouver que vraiment nous pouvons coordonner et nous coordonner entre nous. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Merci, Steve D. Ram Mohan, Jim Garvin, oui, il y a une réponse à cela. Ces noms que vous voyez en bas du graphique, Home Corp Mail, montre qu'il est vrai que tous ces corps, si vous voulez, ces unités pourraient exister de façon indépendante. Mais la collision des noms est un sujet dont nous avons le souvenir il y a quelques années. Le problème que nous avons dans ce sens, c'est que même si certaines parties ont leur propre liste, l'utilisation des noms mène vers d'autres circonstances, si vous voulez. Donc, c'est pour cela que la coordination est très importante. Sinon, nous allons faire face à des problèmes technologiques. Et il faut accepter que ce problème existe. Ram Mohan, merci Jim. Le message au conseil d'administration, c'est qu'il faut vraiment observer cet espace, que ce problème est important. Et puis aussi, nous vous remercions parce que vous, vraiment, vous observez cet espace et vous pouvez ainsi expliquer vous pouvez nous expliquer ces problèmes et nous, en tant que conseil d'administration, nous vous remercions pour pouvoir nous fournir des conseils pour que nous puissions aller de l'avant. Nous voulons remercier le ESSAC pour ses informations, pour nous avoir rencontrés aujourd'hui. Nous apprécions son travail. Patrick Fastom, je voudrais remercier le conseil d'administration pour cette réunion. Nous attendons à avoir ce genre de réunion à chaque réunion de l'ICANN et nous voulons continuer à travailler de concert jusqu'à la prochaine réunion à Cannes. La session est terminée.